France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, la seconde partie de l'émission que Claude Maupomet avait consacrée au metteur en scène de théâtre et d'opéra Jean-Marie Villégier en 1987. Hier, Jean-Marie Villégier évoquait sa collaboration avec le chef d'orchestre William Christie et les chanteurs des arts florissants pour la fameuse mise en scène d'Attis, l'opéra de Lully. Aujourd'hui, Jean-Marie Villégier va remonter un peu le temps et se souvenir de ses débuts à l'opéra avec la mise en scène de la Cenerentola de Rossini. C'était en 1983. 2 ans plus tard, il rencontre Gustave Léonard et monte avec lui le couronnement de Poppée de Monteverdi. Avant de retrouver Jean-Marie Villégier nous raconter sa rencontre avec Gustave Léonard et ses premiers pas de metteur en scène d'opéra, on écoute l'ouverture de Zaïs de Jean-Philippe Rameau, interprétée par la petite bande que dirigeait Gustave Léonard. Thank you.
écoutions l'ouverture de Zaïs de Rameau par la petite bande sous la direction de Gustave Léonard et Jean-Marie Villégier, je me disais que si vous vous faites tomber la poussière des œuvres classiques, vous vous adressez à des chefs qui le font aussi.
J'ai, à vrai dire, beaucoup de chance dans les chefs que j'ai rencontrés.
Ou Léonard.
Oui, je crois que vraiment je suis quelqu'un qui est très gâté par les rencontres que j'ai faites. C'est aussi pourquoi j'ai un peu choisi ce principe du retour en arrière. Léonard, ça a été une rencontre un peu singulière et que je crois que je vais vous raconter parce qu'elle est amusante. J'étais en train de travailler à la Comédie Française quand un certain monsieur Paquier, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, m'a un beau jour téléphoné pour me demander si j'avais envie de faire un autre Néron avec Léonard. J'étais en train de monter La mort de Sénèque de Tristan. Il s'agissait du couronnement de Poppée, bien entendu.
Tristan l'ermite.
Et quand j'ai entendu le nom de Gustave Léonard, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. J'ai dit oui, bien sûr, mais je me suis demandé si M. Léonard savait exactement à quoi il s'engageait. Je crois qu'il est venu voir un ou l'autre de mes spectacles. Et puis, il a été question de se rencontrer. Et la rencontre a eu lieu, je m'en souviens tout à fait, c'était en avril de l'année 84, dans un tout petit pays, près de Bar-le-Duc, en Lorraine, qui s'appelle Saint-Mihiel, où Alain Paquier, qui est un fou de génie, avait organisé un concert de Léonard. Ce concert de Léonard est un petit récital donné dans une bibliothèque devant un public minuscule et passionné. Léonard jouant du Rameau, quelques variations Goldberg. Après quoi, nous nous étions retrouvés à l'hôtel pour discuter Monteverdi autour de bouteilles d'Evian. J'étais complètement impressionné. J'avais un peu connaissance de ce qu'était Gustave Léonard auparavant, un peu plus depuis que j'avais su qu'il était possible de travailler avec lui et que j'avais écouté certains disques comme ce prodigieux Zaïs que nous venons d'entendre. Et j'ai eu affaire à l'homme le plus délicieux du monde et le plus compréhensif. La chose s'est faite. Elle s'est faite d'une façon qui m'a complètement étonné de sa part. Il s'est comporté au fil des répétitions comme un chef de chant exemplaire. Bien entendu que, à côté de mon travail, il y avait le sien et qu'il conduisait la chose d'une main très ferme avec les chanteurs. Mais dans mon travail de répétition, il me prêtait une attention, et une attention gentille, qui est l'un des meilleurs soutiens que j'ai jamais reçu dans une période où j'étais encore fort peu sûr de moi. L'intérêt qu'il me portait, les approbations qu'il donnait à ce que je faisais, même lorsque c'était un petit peu libre par rapport à ce que peut prévoir le genre, était une chose vraiment exquise. Alors, on est arrivé à faire tant bien que mal ce couronnement de Poppée bricolé par Alain Paquier, conduit par Gustave Léonard. Et je dois dire que j'aimerais bien qu'Alain Paquier ait occasion de faire d'autres bricolages de ce genre, parce que quand on bricole de cette façon, c'est vraiment trop amusant.
Alors, nous allons entendre un extrait. Je crois que c'est une scène justement entre Néron et Lucain.
Oui, c'est une scène entre Néron et Lucain qui est, je crois, l'une des très très belles scènes de l'œuvre.
Et puis, il y a un monologue de Néron.
Et il y a un petit monologue de Néron qui suit, oui. C'est une scène où Néron jette sa gourme. Néron est John Elvis et Lucain Guy de Mai, ce Guy de Mai que j'ai eu tant de plaisir à retrouver dans Ratis.
Ratis, oui. Et c'est l'ensemble baroque de Lunéville sous la direction de Gustave Léonard.
Porque Seneca è morto. Cantiamo, 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 cantiamo lontano da morro. La canzone in mare un bel viso che di sua mano a volte Cantiamo, 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 cantiamo,
gloria, respira 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 gloria.
Monteverdi, le couronnement de Poppée. Nous écoutions un extrait assez court entre John Elvis et Guy de Maix, respectivement Néron et Lucain. Et ensuite, à l'instant, un monologue de Néron, donc par John Elvis.
Par John Elvis, oui.
Ensemble de Baroque de Lunéville, dirigé par Gustave Léonhardt. Alors, Jean-Marie Villégié, comment est-ce que vous abordiez cette œuvre ?
Mais je pense que je l'abordais comme, un peu comme j'ai abordé Attis, c'est-à-dire comme une action, comme un drame. Et là-dessus, je crois que Léonhardt était très d'accord avec moi. Tellement d'accord, d'ailleurs, que comme vous pouvez le constater, comme on peut le constater en entendant l'enregistrement que France Musique a diffusé à l'époque, sa version est extrêmement discrète au point de vue musical. Il met le texte en avant, je ne dis pas le chant, je dis bien le texte en avant, l'accompagnement musical étant réduit à son strict minimum. Sa pensée d'ailleurs est qu'il est, ce faisant,
fidèle
à ce qui se faisait à Venise au moment de la création du couronnement de Poppée. C'est le support musical le plus petit qui se puisse concevoir. Sa direction était d'ailleurs, avec les chanteurs, très centrée sur le texte et sur la diction du texte. Quant à moi, avec Carlo Tomasi et Patrice Couchetier et Philippe Arlot, l'éclairagiste, j'ai fait un spectacle qui va un peu, se conforme un peu au principe d'Attis. Je veux dire une certaine liberté dans la mise en scène par rapport à la stricte reconstitution, même une grande liberté par rapport à la stricte reconstitution. Et je me suis aperçu très tard qu'il y avait eu malentendu entre Gustave Léonhardt et moi dans cette fameuse conversation de Saint-Mihiel où, pourtant, n'arrosant le repas que de bouteilles d'Évian, nous pouvions croire avoir eu l'esprit clair. Nous n'étions pas dans une euphorie artificielle. D'ailleurs, cette euphorie, comme je disais, s'était prolongée au fil des répétitions avec des gens aussi magnifiques que ces chanteurs qu'il m'a fait connaître, qui sont donc Guy de Maix, John Elvis, je devrais ajouter Jennifer Smith, que j'ai retrouvée elle aussi
dans
Attis, qui sont des chanteurs-acteurs, qui n'ont rien à envier à des acteurs sur le plan de la sensibilité scénique, qui sont d'une délicatesse de touche extraordinaire. Et aussi d'une conscience professionnelle en tant qu'acteur dans l'incarnation du personnage exceptionnel.
Et pourquoi est-ce qu'un spectacle comme ça n'est pas venu à Paris ?
Et tout simplement, je crois, parce que Léonhardt ne souhaitait pas continuer à diriger ce spectacle. Quelle qu'ait été notre entente pendant les répétitions, il y avait des accords sur le résultat final. Il aurait voulu des toiles peintes. Il aurait voulu les quinquets et la lumière douce et égale, comme il disait lui-même, qu'il imagine avoir été celle des spectacles vénitiens des années 1640. Bref, sa pensée est que les gens de théâtre doivent sur ce chemin prendre exemple sur les musiciens, que le théâtre a sur la musique une vingtaine ou une trentaine d'années de retard, que les Léonhardt du théâtre restent à inventer, et qu'il s'agit maintenant pour nous, gens de théâtre, de retrouver les instruments du théâtre baroque, tout comme, et de retrouver leur pratique et la virtuosité de leur pratique, tout comme les musiciens ont retrouvé la diversité instrumentale de l'époque baroque, appris à distinguer tel clavecin de tel autre, enfin bref, sont revenus à tout l'instrumentarium baroque. Je ne suis pas sûr que cette analogie qu'il fait fonctionner pure et dure puisse être appliquée de façon aussi rigide à deux domaines vraiment très différents l'un de l'autre. Je ne crois pas que le théâtre ait vocation à revenir sur ses pas. Je crois le théâtre un art plus éphémère encore que ne l'est la musique, plus lié à l'actualité, plus lié au présent. Je crois que le théâtre fait le pont entre le public d'aujourd'hui et la musique d'autrefois, que la position du metteur en scène et celle du directeur musical face au public ne sont pas la même. Nous sommes des médiateurs. Et nous sommes aussi ceux par qui le présent rencontre le passé, épouse le passé. Je dirais que, sans doute aussi, une bonne part de présent épouse le passé dans la musique que fait Gustave Léonhardt, qui n'est certainement pas une musique confite en dévotion, et comme on a pu entendre,
oui, absolument,
qui a de la couleur, et je crois même de la couleur moderne.
piano piano, senza strepito il rumore. Zitto, zitto, piano piano, senza strepito il rumore. Delle due quale rumore, esatezza e verità. Zitto, 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 piano piano, piano piano, senza strepito il rumore, senza strepito il rumore. Delle due quale rumore, esatezza e verità. Zitto, zitto, piano piano, delle due quale rumore, esatezza e verità. Esatezza, esatezza, esatezza e verità. Esatezza, esatezza, esatezza e verità. Esatezza, esatezza, esatezza e verità.
Sottovoce a mezzo suono, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzo suono, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, 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 sottovoce. In estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
Jean-Marie Villégier, on aura remarqué que vous avez dérogé à vos habitudes du grand siècle. Vous avez fait un grand saut dans le temps,
oui, c'était...
puisque nous étions chez Rossini.
Il faut dire même que c'était un grand saut dans le vide. Ce spectacle,
La Cenerentola,
fait très peu de temps après mes premiers spectacles de la Comédie française, était des débuts dans l'opéra pour moi. Et quel début avec une œuvre que je crois vraiment très difficile, mais aussi très très belle. J'ai toujours eu de la chance, je crois, avec les librettistes. Quino, Busenello pour Le Couronnement de Poppée, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que c'est beau Le Couronnement de Poppée en tant qu'œuvre de théâtre. Et ici Ferretti, qui n'est peut-être pas un dramaturge constructeur de première grandeur, mais qui est un dialoguiste génial. J'ai voulu écouter avec vous Zitto Zitto parce que c'est
début du final du premier acte.
C'est début du final du premier acte. C'est un moment où Ramiro et Landini se retrouvent ensemble, comme ça, à comploter ensemble. Ça me rappelle une leçon que j'ai reçue à ce moment-là de mon assistant, Jean-Claude Berruti, qui est metteur en scène aujourd'hui et qui à l'époque était l'assistant permanent de la Monnaie de Bruxelles où j'ai fait ce spectacle. Jean-Claude Berruti a été pour moi un initiateur incroyable. Il avait tout le métier qu'un assistant permanent de la Monnaie de Bruxelles peut avoir en matière d'opéra. Il m'a conduit par la main, convaincu de réaliser mes intentions, aidé à compléter mes intentions, et parfois compléter mes intentions avec les siennes propres d'ailleurs. Bref, c'est devenu un frère dans un creuset où j'étais en train de devenir peut-être une sorte de metteur en scène d'opéra, je ne sais pas, mais ne l'étant certainement pas encore à l'époque. Et ce Zitto Zitto a été chanté donc par les deux chanteurs-interprètes dans des conditions tout à fait étonnantes, puisque mon idée était, mais je n'osais pas la formuler, que tout en chantant ce duo terrible, Peut-être ils pouvaient échanger complètement leur costume de A jusqu'à Z, à la seule exception du caleçon. J'ai dit ça à Beruti qui m'a dit « mais oui », et je me faisais peur à moi-même. Et à vrai dire, nous y sommes arrivés.
Et nous y sommes, ils y sont.
Ils y sont, vous avez bien raison. Ils y sont arrivés. Et j'ai appris là une chose sur les chanteurs, qui est qu'ils aiment qu'on leur demande des choses difficiles. Qu'ils réussissent les choses difficiles, qu'ils adorent les défis, y compris les défis scéniques. Et que c'est une erreur de ne pas vouloir les mener jusqu'à des folies acrobatiques. Être intimidé par le chant, comme je l'ai longtemps été, je me disais, ces choses merveilleuses qui sortent de ses bouches, comment vouloir demander en même temps que...
Mais pas si du vite, tout. Là.
Et oui, et je crois qu'ils sont... La plupart des chanteurs sont capables de choses merveilleuses sur le plan physique, en même temps que sur le plan vocal.
Oui, ça c'est aussi une nouveauté, parce que je me souviens que des mises en scène de Visconti avec Maria Callas, on disait, mais comment, il a fait chanter couché, mais c'est impossible, la voix ne peut pas sortir. Enfin, moi je suis assise là. Mais ça... Alors, les chanteurs que nous entendions étaient Renato Capecchi et Luigi Alva, c'était la version de Claudio Abbado. Alors, Rossini.
Ah, Rossini, ça, c'est une autre histoire. Et c'est une toute autre histoire que Monteverdi ou que Lully. J'aimerais beaucoup revenir à Rossini, et je ne sais pas, d'ailleurs, si je n'ai pas tort de vouloir m'y frotter, car ni Lully, ni Monteverdi n'y prépare. La forme musicale est beaucoup plus prégnante. On est beaucoup moins près du théâtre. Il est beaucoup plus difficile de faire du théâtre dans ces grands ensembles où la folie mécanique musicale prend souvent le dessus sur la situation. Mais enfin, je crois que c'est possible. Et je crois aussi que cette œuvre...
Je crois que vous aimez bien la difficulté, de toute façon.
Oui, je crois que j'aime bien ça. Je m'aperçois que j'aime bien ça. Et c'est une difficulté que je retrouverai volontiers, pensant la résoudre peut-être mieux une autre fois.
Vous avez choisi le quintet du premier acte.
Du premier acte, qui est un moment très important et très beau dans l'œuvre. Un moment auquel je suis particulièrement sensible. C'est le moment où Cenerentola refuse de se laisser déclarer morte par son faux père qui, lorsqu'Alidoro vient réclamer la troisième sœur, déclare qu'hélas la troisième sœur est morte, elle n'est plus là. Et Cenerentola se rebelle, dit que non, elle n'est pas morte. Et j'allais dire, son père lui impose de descendre dans la tombe alors qu'elle est toute vie, générosité, bonté, douceur. Dans la mise en scène que j'avais faite, qui était un peu allégorique, une fosse était ouverte au milieu du plateau et... Lorsque Magnifico la déclare morte, c'est comme si tout le monde était là autour de cette fosse ouverte à l'enterrement. Je dois dire aussi que cette œuvre si gaie a été montée par moi dans une période très cruelle de ma vie, puisque en même temps que se faisait la générale de ce spectacle, ma mère à Paris passait de vie à trépas. Donc Cenerentola est pour moi une œuvre encore très sensible et il y a une sorte d'identification pour moi de l'héroïne à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé.
Je comprends.
Voilà.
Les trésors de France Musique.
Mama!
o non andiamo?
Mi sento la macerar.
Ma una mezz'ora, un quarto.
Ho lasso mio distritto, non ho lasso mio distritto. Serenissima. Oh, morir. ne le volto estatico di questo e quello si legge il vortice dell'or cervello che ondeggia e dubita e recer
nel volto estatico
Rossini, la Cenerentola, Cendrillon, le quintet du premier acte, Teresa Berganza, Paolo Montar solo, Renato Capecchi, Luigi Alva, Ugo Trama, Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Claudio Abbado. Et vous, Jean-Marie Villégier, qui étaient vos chanteurs?
Ah, moi, c'était Alicia Naffé, Cenerentola. Oui. Et Dieu sait si j'aimerais retrouver Alicia Naffé dans un rôle rossinien, par exemple, ou mozartien. Dale Luising, Dandini, Leonard Pezzino, Ramiro, Marius Rinsler, le vieux monsieur, et Malcolm King, Alidoro. C'était là une équipe magnifique. L'orchestre de la Monnaie était dirigé par Sylvain Cambrelin. C'était une très 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 belle équipe. Pour des débuts à l'opéra, ça n'était pas des débuts en mineur. Ceci grâce à Gérard Mortier, qui a commis l'imprudence fatale de m'engager à faire une œuvre lyrique. C'est un essai qui a été pour moi très difficile, mais aussi très instructif. Assez douloureux, comme je vous disais, mais aussi tout simplement dans le travail, difficile. Mais en fin de compte, je crois positif. Et peut-être bien que c'est un spectacle dont j'aimerais revoir l'enregistrement télévisé, puisqu'il existe et il a été diffusé à la télévision de là-bas, pour constater ce que je pense, qu'il ne comportait quand même pas que des faiblesses. Peut-être était-il, comme il arrive souvent au spectacle, au premier spectacle, trop riche d'une dramaturgie trop lourde, trop complexe. Peut-être y avait-il là de quoi faire deux ou trois Cenerentola entre lesquelles je n'ai pas su choisir, qui auraient été l'une ou l'autre assez intéressantes. C'était une vision plutôt allégorique de l'œuvre, comme je disais tout à l'heure, où le personnage de Cenerentola était un peu dans la position d'une Italie prise entre le vieux monde et le nouveau. Un nouveau monde, évidemment, assez français, et un ancien monde poudré et cravaté, comme il convient. Patrice Cauchetier s'en était donné à cœur joie dans des costumes tantôt 18e, et tantôt, bien sûr, comme il convient, 1817. Et une Cenerentola très Léopold Robert, l'italienne que rêvent tous les peintres danois présents à Rome à l'époque. Et tous les peintres français aussi, puisqu'après tout, Léopold Robert n'est pas danois. Mais enfin, comme vous savez, il y avait beaucoup d'étrangers nordiques dans cette époque-là à Rome. Et donc c'était un petit peu cette atmosphère-là, c'était assez intéressant à faire. Mais par ailleurs, c'était aussi, et voilà la seconde Cenerentola que c'était aussi une compagnie de théâtre, où Alidoro, au lieu d'être un prophète barbu ou un mendiant hugolien, était un arlequin. Ce qui avait beaucoup contrarié Malcolm King, au départ, qui n'avait pas très envie de faire l'arlequin. Et puis quand Malcolm King a constaté que, entre le chef d'orchestre et moi, ça n'allait pas tout seul, et qu'il y avait des petits désaccords qui ne se réglaient pas toujours de la façon la plus agréable pour moi, il m'a fait la gentillesse que je n'oublierai jamais de mettre ses objections dans sa poche et de se ranger complètement à mon arlequinade. Donc voilà, c'était bien, c'était une initiation un peu violente, mais d'où je crois il est sorti beaucoup de choses pour moi.
Alors vous, cette pièce, ce livret, cette pièce pour vous sont très importants dans l'œuvre de Rossini. C'est ce que vous mettez en premier ou bien est-ce que vous aimeriez monter le Barbier par exemple?
Je crois que je mets ça même avant le Barbier.
Oui,
oui, je la trouve plus belle que le Barbier, oui, et oui. J'aimerais bien monter le Barbier, mais je crois que j'aimerais mieux revenir sur Cenerentola. J'allais dire aussi approfondir le travail fait avec Carlo Tomasi et Patrice Cauchetier, spécialement avec Carlo Tomasi, puisque ça c'est une dette réelle que j'ai envers Gérard Mortier. C'est à ce spectacle, et à Gérard Mortier précisément, que je dois d'avoir rencontré Carlo Tomasi. Mortier, qui a du flair, a dit « Oh, vous vous entendrez bien, vous verrez, vous êtes fait pour vous entendre ». Je ne sais pas s'il savait si bien dire, puisque c'était en 83, quitté, oui. Et nous sommes en 87, et j'espère bien que nous ne sommes pas prêts de nous quitter.
En somme, vous avez une équipe très régulière maintenant.
Oui, 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 et j'apprécie énormément d'avoir toujours, oui, c'est le luxe suprême d'être avec des gens qu'on aime, avec qui on se comprend à demi-mot et avec qui aussi on n'est pas seulement en train de se comprendre à demi-mot, mais plutôt en train de faire un chemin ensemble en allant vers des paris un peu plus difficiles pour la seule raison qu'on se connaît mieux, donc qu'on peut poser des questions peut-être un peu plus directes chacun à chacun. C'est le cas donc avec Tomasi, avec Cauchetier et avec Philippe Arlot aussi, éclairagiste, qui m'accompagne depuis fort longtemps. C'est même presque lui le plus ancien de la bande, puisqu'il vient de l'époque où je ne travaillais qu'à Strasbourg, à l'école du TNS.
Mais comment est-ce que vous faites pour qu'ils soient tous libres au même moment?
Ah, je crois que nous planifions ça longtemps à l'avance. Et puis enfin, je crois que nous tenons assez les uns les autres à
c'est
travailler
ça
ensemble
que je voulais vous faire dire.
Pour sacrifier les
c'est
choses s'il le
vous
faut.
Faire dire. Alors, je crois que vous voulez terminer cette émission avec la deuxième suite pour viol de Couperin.
Plus exactement, la pompe funèbre.
La pompe funèbre,
extrait de cette deuxième suite.
Par Jordi Savall.
Que joue Jordi Savall, oui. Oui, c'est encore un autre souvenir.
Mais là, vous retombez dans des époques...
Je retombe dans des époques qui me sont plus familières.
Confortables.
Et aussi dans un théâtre que je connais mieux, puisqu'il s'agit pour moi de la tragédie. C'est une musique que j'ai empruntée à Couperin et à Jordi Savall pour servir de musique de scène aux tragédies que j'ai montées à la Comédie-Française, oui. Et même auparavant dans des cadres plus restreints à La Rochelle et à l'école du TNS.
J'aimais bien d'ailleurs cette façon qu'avait Jean-Pierre Vincent de laisser entrer les gens dans la salle en musique.
Oui, oui, c'était tout à fait. C'était une chose que nous avions voulu ensemble et qui, je crois, correspondait aussi à un projet beaucoup plus vaste que nous avions, qui était de faire une opération Mort de Sénexina tous les ans, avec des œuvres différentes, bien entendu. Mais les dieux et les sociétaires de la Comédie-Française ne l'ont pas entendu de cette oreille.
Tant pis pour nous.
Et pour eux.
Thank you.
Un extrait de la deuxième suite en La majeure de François Couperin, interprété par Ton Koopman au clavecin et Jordi Savall à la basse de viol. Une œuvre choisie par le metteur en scène Jean-Marie Villégier pour conclure cet entretien qu'il avait accordé à Claude Maupomé en 1987. Cette archive de France Musique est à retrouver sur le site radiofrance.fr et via l'appli Radio France. Merci à Béatrice Trichet qui réalise chaque jour nos trésors ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.